Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
C'est le journal des idées avec vous à 6h40. Jacques, une fois de plus en Europe, on assiste avec la Suède à la montée de l'extrême droite xénophobe et à la polarisation du débat électoral autour de l'immigration.
Eh oui, le pays modèle de tolérance et d'ouverture qui a proportionnellement accueilli le plus grand nombre d'immigrés et lors de la crise migratoire de 2015, le plus grand flux de demandeurs d'asile par habitant jamais enregistré dans l'OCDE, se retrouve confronté à des problèmes d'intégration économique, sociale et culturelle que le parti d'extrême droite, opportunément baptisé démocrate, a instrumentalisé à son profit. Comme le rappelle Fabien Escalona dans Mediapart, ce parti a su s'extraire du folklore néo-nazi et suprémaciste blanc qui lui aliénait toute crédibilité et l'empêchait de capter des sentiments anti-migrants et anti-establishment qui étaient déjà répandus dans la population suédoise. Il s'est employé à lisser son image avec le logo inoffensif d'une fleur bleue en lieu et place d'un point tenant une torche enflammée. Le programme lui-même a été purgé des propositions les plus radicales comme le rapatriement forcé de tous les migrants arrivés depuis les années 1970. La politisation du thème de l'immigration et de l'asile a d'ailleurs bénéficié par contre-coup à ses plus farouches adversaires du parti de gauche tenant d'une politique d'accueil généreuse, ceci contribuant à la fragmentation du paysage politique. Pourtant, l'attitude des Suédois envers les immigrants et les réfugiés ne s'est pas durcie au fil des années. 60% d'entre eux souhaitaient que leur nombre décroisse en 1990, 40% en 2015. Mais dans un pays où le système de protection et de redistribution sociale reste important, l'immigration est devenue une charge du fait de la dégradation du marché du travail, impliquant moins de recettes fiscales et des coûts en termes de subventions publiques et de transferts sociaux, souligne Tino Sanondaggi dans un rapport publié par la Fondation pour l'innovation politique. C'est ce qui explique le tournant amorcé par le gouvernement social-démocrate dès la fin de 2015 avec le rétablissement du contrôle aux frontières, les restrictions drastiques du droit d'asile et du permis de séjour ou encore du regroupement familial. L'argumentaire xénophobe du Parti des démocrates de Suède en appelle donc à des mesures que le pays a de fait déjà prises. C'est pourquoi il en rajoute sur la thématique identitaire. Et là aussi, la surenchère se nourrit, comme ailleurs, d'informations mensongères. L'envoyé spécial à Stockholm de l'hebdomadaire Le Point titre ainsi son article « La percée de l'extrême droite en Suède, dopée par les fake news ». Julie Malor cite notamment une étude menée par des chercheurs d'Oxford et publiée dans le New York Times, qui établit qu'un tiers des articles relatifs aux élections suédoises circulant sur les réseaux sociaux seraient issus de trash websites, des sites poubelles diffusant des informations délibérément trompeuse contre l'immigration et l'islam en vue d'influencer les élections. Ou encore, comme le souligne dans Le Monde Anne-Françoise Hiver, des sites comme Russia Today, Sputnik ou Breitbart qui propagent un message souvent très islamophobe et volontiers catastrophiste pour instiller la désunion. Mais, commente Anne Rovan dans Le Figaro, les résultats en demi-teinte de dimanche soir, somme toute assez peu lisibles et beaucoup moins tranchés qu'anticipés, ne risque pas de faire le lit de la révolution démocratique en Europe annoncée par Marine Le Pen dans un tweet triomphaliste au soir des élections. La correspondante à Bruxelles du quotidien précise cependant que la nette progression de l'extrême droite contraint désormais le centre-gauche au pouvoir à se lancer dans de longues et difficiles tractations avec la droite et que le pays s'apprête donc à rejoindre la liste déjà très étoffée des États membres dirigés par des gouvernements de coalition. Des coalitions qui à leur tour n'ont de cesse de brouiller encore un peu les frontières politiques traditionnelles. À 8 mois des européennes, le constat peut sembler fâcheux et n'augurer rien de bon pour la suite, notamment les consultations à venir en Lettonie et surtout en Bavière. Raison de plus pour réaffirmer le principe de l'état de droit, comme l'a fait dans son dernier discours sur l'état de l'Union le président de la Commission européenne. Un message à l'attention de Viktor Orban, qui prendra ce mardi la parole dans l'hémicycle pour défendre sa politique contre un rapport du Parlement européen dénonçant ses nombreux manquements, car demain, les eurodéputés seront appelés à voter pour décider si oui ou non ils demandent au Conseil d'engager la procédure de l'article 7, retirant à la Hongrie ses droits de vote au sein de l'Union, une consultation qui devrait révéler la photographie exacte des rapports de force entre progressistes et nationalistes et donner la mesure de l'embarras du PPE à se positionner entre les uns et les autres.